Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lectureux lecture du Trône de Fer au Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le chapitre 47, toujours en compagnie de mon coéquipier, Guillaume.
Toujours là.
Eh bien, nous sommes partis. Guillaume, je te laisse te charger du résumé.
Dans ce chapitre, on va retrouver Ned, à peine sorti d'un nouveau rêve concernant Lyanna. Ned est convoqué en urgence par le roi de retour de la chasse. Malheureusement, un sanglier aura eu raison de Robert, trop ivre durant la chasse pour éviter l'inévitable. Robert, sur son lit de mort, profitera de ses dernières paroles pour avoir une conversation seul à seul avec Ned et pour lui confier le royaume. Il sait que Ned est la seule personne honnête qu'il aura eue autour de lui ces 15 dernières années. Il saura mieux gouverner qu'il ne l'aura jamais fait. Après ses dernières paroles, Robert demande à reposer en paix. Et à peine sorti, Ned est poursuivi par Renly, lui proposant de lui confier soldat afin de prendre le contrôle du donjon rouge avant que les Lannister ne le fassent et qu'il soit trop tard. Ned refuse, mais se demande s'il ne vient pas de commettre une erreur. Il convoquera alors Littlefinger pour lui demander de soudoyer le guet pour s'assurer d'avoir les 2000 hommes de la garde de Port-Réal en cas de problème. Bon, il a pas vraiment demandé comme ça, mais bon, il a laissé...
Il a payé une assurance vie, là.
Ouais.
Donc, mes aïeux, un chapitre très important, hein. Chapitre très 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 important, qui marque un point de passage, et nous en reviendrons, mais je tenais quand même à nous féliciter d'en être arrivé là. Comme on le rappelle, nous sommes en présence de Guillaume, qui lui a vu la série, mais n'avait jamais lu les livres, donc c'est la première fois qu'il posait les yeux sur ces chapitres, tandis que moi je les ai déjà lus, mais c'est vrai que c'est un événement assez marquant, que ce soit dans les livres ou dans la série. C'est pas marquant, mais en tout cas, c'est un point de passage, quoi. C'est un checkpoint. Le chapitre débute dans le donjon rouge, par un rêve d'Eddard Stark. Il se trouvait dans les cryptes de Winterfell, près de la tombe de son père, Rickard Stark, de son frère Brandon Stark, et de sa sœur, Lyanna Stark. Sa sœur lui chotait le sempiternel, promets-moi, Ned, toujours associé à ses roses d'angle pâle. Donc, alors Guillaume, la dernière fois, je sais plus comment tu l'avais interprété, toi, ces roses.
J'avais dit que éventuellement, si Rhaegar n'avait peut-être pas violé Lyanna, mais ce serait plutôt une relation d'amour, peut-être que sur son lit de couche, en fait, c'était des roses qu'avait apporté Rhaegar à Lyanna. Et que ça faisait partie, en tout cas que ces roses-là faisaient partie du décor pendant la, autour de la couche ensanglantée de Lyanna.
D'accord, ok. Bah, c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai que ces roses sont apparues plusieurs fois, hein, dans le tome, mais on n'a toujours pas la signification de celle-ci. Ned fut réveillé par ses gardes et son intendant. Il lui indiquait que le roi Robert le réclamait. D'ailleurs, lorsqu'il s'habille, on apprend que c'est lui qui est en possession du poignard en acier valérien. Tu vois qu'il avait un peu disparu des radars, hein, ce poignard, mais en fait c'était toujours Ned qui l'a, quoi. On en apprend aussi un peu plus sur l'architecture du donjon rouge. Donc, alors, les appartements royaux sont situés dans ce qu'on appelle la Stadelle de Maegor, qui est en fait un château à l'intérieur du donjon rouge. Il est séparé du reste par une douve. Donc, Guillaume, alors on l'appelle la Stadelle de Maegor, je te laisse rappeler qui est ce Maegor le Cruel et pourquoi on le nomme comme ça.
Bah, Maegor, c'était, je crois, le deuxième roi, enfin c'est le deuxième...
Troisième.
Et,
troisième roi Targaryen.
Troisième roi Targaryen. Et c'est lui qui, c'est sous son règne que s'est finalisée la construction du Donjon Rouge. Et pour s'assurer que tous les secrets du Donjon Rouge restent au sein de la famille Targaryen, bah, pour remercier tous ces architectes et les gens qui ont participé aux constructions, bah, il les a tous exécutés, quoi. Merci les gars, c'était sympa.
Mais donc du coup, il a eu le temps de nommer cette... C'est un château fort dans un château, quoi, parce que c'est il est séparé du reste du Donjon Rouge par une douve, donc un pont-levis, donc c'est vraiment quelque chose qui est assez bien protégé à l'intérieur même, les appartements royaux sont bien séparés du reste, quoi. Donc, si ça a été de bon nom et que peut-être ça a été fait sous son impulsion, c'est quelqu'un qui soit était assez craintif de ses ennemis, Ouais, du coup, c'est peut-être le cas, hein, vu comment il a protégé les secrets du Donjon Rouge, mais...
Il est même craintif de ses amis, je crois.
Mais voilà. Et donc, les appartements royaux se situent donc dans cette citadelle de Maegor. Au moment où Ned traverse le pont-levis pour rejoindre les appartements de Robert, il vit qu'elle était gardée par un des gardes royaux, Sir Barros Blount, tandis que la chambre de Robert était gardée par deux autres membres royaux. Deux autres gardes royaux. Barristan Selmy et... alors, Guillaume, t'as noté le deuxième ?
Ouais, Preston Greenfield.
Ok.
J'ai pas eu le temps de regarder sur la, dans l'appendice, mais peut-être tu pourras me donner quelques indications.
Ouais. En fait, ça a été mal traduit. Enfin, c'est ça, ça pas mal traduit, mais ça a pas été traduit, en fait.
Encore ? Encore ? Ça fait beaucoup, là, non ?
Donc, dans le la suite, dans la suite du tome, ou des, enfin, en tout cas des autres tomes, il sera appelé...
Attends, ça... laisse-moi deviner... Vers pleine, un truc comme ça.
Preston Verchamp.
Verchamp. Oh putain, j'étais pas loin.
Donc, Guillaume, maintenant on connaît donc 6 membres de la garde royale. Est-ce que tu pourrais les citer ?
On va essayer de faire vite. Alors, Ser Baristan, Jaime Lannister, Boros Blunt, Meryn Trant, Preston Greenfield.
Verchamp, du coup.
Verchamp. Et il m'en manque sûrement un. Je te laisse mettre le panier.
C'est celui qu'on a découvert justement lors du jugement de Ned, lors du dernier chapitre. Celui qu'il trouvait très capable. C'est Harris du Rouvre.
Harris du Rouvre, ouais, voilà.
Et le nombre de 3 gardes royaux, ainsi que la pâleur de Barristan Selmy, indiquèrent à Ned qu'un événement grave se produisait. Donc le nombre de 3 gardes royaux, ça fait référence au rêve de Ned par rapport à la Tour de la Joie. Et donc les 3 gardes royaux d'Harris II. Donc Daenerys le Fou, qui était, alors que je dis pas de conneries, Geralt Hightower, Arthur Dayne.
Et l'autre...
C'était...
pas un Redwyne. Non, c'était pas un Redwyne, non, c'était un Wendt.
Ah oui, c'était...
Oswald Wendt.
Oswald Wendt, bien vu Guillaume. Arrivé dans la chambre, Ned trouva aussi Renly Baratheon. Donc le petit frère de Robert, le plus jeune frère de Robert même, le grand maître Pycelle, ainsi que la reine Cersei Lannister. Donc on voit qu'elle a pas écouté les conseils de Ned au dernier chapitre, qu'elle s'est toujours pas enfuie loin dans les îles d'été ou dans les cités libres.
Hein. Elle est prête à en découdre. Hein.
Alors on sait pas, mais en tout cas c'est bien convenant pour elle que Robert meure maintenant en tout cas. Hein.
C'est pratique.
C'est très pratique. Juste au moment où Ned allait tout dévoiler à Robert... Bon, dommage, il meurt, quoi. Et c'est là que Ned découvre le pire. Robert Baratheon est aux portes de la mort, étrippé par un sanglier pendant sa chasse. On ne pouvait plus rien faire pour lui. Mais Robert était encore conscient et désirait parler à Ned. Il vira alors tous les occupants de la chambre, excepté la main du roi.
Et on remarque que Cersei et Grand Maître Pycelle essayent un peu de faire taire Robert, genre, oh non, genre, je sais plus, t'as Cersei qui fait, oh non, qui râle, qui fait, oh non, fais pas ça, et lui, t'as Robert qui fait, bon, dehors femme, comme d'habitude, et t'as Grand Maître Pycelle qui fait, allez, du lait de pavot, tiens, tiens, du lait de pavot, prends du lait de pavot.
Ouais, bon, comment on l'a découvert encore que Pycelle était un peu dans le... Je crois que c'est Ned hein, qui avait dit que Pycelle était très conciliant avec Lannister ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Pour ses dernières paroles, Robert informe Ned que Robert Royce l'a bien prévenu de son jugement envers la montagne, Gregor Clegane, que Robert n'a rien dit au limier, son frère, qui l'accompagnait pendant la chasse. Donc on se rappelle, hein, en fait, Ned, après son jugement, du coup, il a envoyé Robert Royce auprès de son père, Jon Royce, donc Jon le Bronzé, qui chassait avec Robert pour le prévenir de ce qu'il avait fait, quoi. Et donc Robert Royce a bien prévenu Robert, mais du coup, il n'a pas prévenu le limier. Et Robert a laissé le soin à Cersei de lui dire. Et c'est même Little Finger, je crois, qui a dit que bien que Sandor déteste son frère Gregor, il considérait que c'était à lui de le tuer plus qu'à quelqu'un d'autre, en fait.
Ouais.
Donc ça n'allait pas le réjouir, cette situation. De plus, Robert commence à regretter le sort qu'il voulait réserver à Daenerys, et peut-être que le sanglier était une punition divine suite à cette décision. En tout cas, il demande à Ned d'arrêter cette machination, si cela est encore possible. Donc, ça me fait marrer, ça, parce que Ça me fait marrer en certains sens, parce que bon, c'est vraiment aux portes de la mort qu'il se rend compte que c'était une énorme connerie ce qu'il a fait, quoi. Bon, en tout cas, c'était pas digne. Et ça fait très penser à ce qu'a dit Eddard à Bran lors de son premier chapitre, que c'est à l'heure de la mort qu'on peut se montrer brave, quoi.
Ouais.
Donc, bien que bon, je sais, ça paye. Voilà, il a fait beaucoup de conneries dans sa vie. Voilà, à l'heure de la mort, il essaye en tout cas de rattraper ce qu'il peut, quoi.
Ouais, ça se voit qu'il fait les dernières.
Ça veut un peu penser que, tu sais, quand les présidents américains ils partent au pouvoir, voilà, c'est marrant.
Parce ouais, ils gracient plein de gens d'un coup, là.
Exactement, ouais. Ou à l'époque, bon, là, ça existe plus, mais les présidents français, quand ils, je crois que c'est quand ils arrivaient au pouvoir, qu'ils faisaient sauter tous les PV ou quelque chose comme.
Il y a souvent des amnesties.
Ouais. Voilà, donc que les présidents américains ils gracient un peu dans le sens où, bon, maintenant c'est fini, hein. Voilà, quoi, je reconnais que des fois, donc on va commencer à gracier des gens. Il fait ensuite rédiger son testament à Ned, dans lequel il lui confie la charge du royaume, en tant que main du roi, jusqu'à ce que son fils Geoffrey soit en âge de régner. Donc on le rappelle, hein, l'âge de raison, dans la sept couronnes, c'est à 16 ans, et Geoffrey en a 12, donc il lui reste 4 ans avant d'être... voilà, quoi, de pouvoir régner avant, ça doit être... Enfin, il y a quelqu'un qui doit être responsable, donc soit, ouais. Par exemple, là... Ned Stark, la main du roi, donc le gouverneur du royaume, ou soit, parfois, si la mère est encore... ça peut être aussi la mère, hein, la mère, la reine douairière, enfin, pardon, c'est pas douairière, du coup, parce que voilà, c'est la reine-mère, pardon. Dans le cas où, par exemple, on n'a pas décidé d'un gouvernant, quoi.
Ouais.
Comme dans le cas, par exemple, de Lysa Arryn. Et Ned, connaissant la triste vérité, donc, que Geoffrey n'est pas son fils, n'est pas le fils de Robert, Ned n'eut pas la foi de la révéler à Robert alors qu'il était aux portes de la mort. Ainsi, il changea la phrase pour désigner plutôt son héritier au lieu de son fils Geoffrey. Je sais pas trop comment. Je pense qu'en vérité, j'aurais fait la même chose, hein, si j'étais à la place de Ned. Parce que
ouais.
Je trouve que c'est trop triste de révéler ça quand ton meilleur pote il est en train de mourir devant tes yeux. Tu veux pas franchement, ça l'enfoncerait tellement. Tu sais,
c'est le coup de grâce, tu vois.
Que moi je comprends même si bon tu peux Ned à la fin du chapitre je crois qu'il voit ça un peu comme une trahison quelque chose comme ça qu'il a déshonoré les dernières volontés de Robert mais en vérité je pense qu'il a plus honoré les dernières volontés de Robert que
il l'a épargné franchement il l'a épargné hein. Après parce que en vrai s'il l'avait dit sur son lit de mort Robert je pense que ses dernières volontés il aurait fait bah, Nico, j'ordonne l'assassinat j'ordonne l'exécution de Cersei, de Geoffrey, de tous.
Il aurait pu, mais bon, ouais, il a été très complaisant. Hein. Ça fait un peu penser, d'ailleurs, et justement, on va en parler juste après, mais Robert fait promettre à Ned, toujours en gardant son sens de l'humour, hein, de manger le sanglier qu'il a tout de même rapporté. Parce que même si bon, le sanglier l'a tué, certes, mais il a quand même eu la force de le rapporter au Donjon Rouge. Et donc, il lui fait promettre et il lui dit mot pour mot, promets-moi Ned. Et ça résonne en écho dans la tête de parler moi de Lyanna Stark, ta sœur. Tu sens que Ned, il a été tenu par des promesses qu'il ne pouvait pas refuser, quoi. comme on l'a dit, hein, vu que Lyanna, dans sa pensée, ça résonne avec une couche sanglante ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Donc du coup, pareil, la promesse est aux portes de la mort de Lyanna et c'est des trucs qui peut pas...
Ouais. Bah ouais. Bah putain. Franchement, je crois que c'est pas de bol pour Ned, quoi. Franchement.
Non, mais il est tenu par des liens qu'il peut pas rompre et qu'il pouvait pas refuser, en fait. Pour finir, Robert demande à Ned de prendre soin de ses enfants. Et Ned pense alors au bâtard de son ami, du coup, pas ses faux enfants. Donc, Mia Stone dans le Val, confirmation que c'est donc la fille de Robert. Gendry, l'apprenti forgeron. Et Bara, la petite fille toujours en bas âge.
Ouais.
Et bon, Ned promet aussi de veiller sur eux. Alors, bon, on sait pas trop combien de bâtards il a, Robert. Hein, mais je pense qu'il en a une bonne flopée et j'espère que Ned les connaît tous. Et aussi, bon, le garçon, là... celui qui a calmé, qui est le pupille de l'actuel sire, enfin l'actuel
intendant d'Akalmie, quelque chose comme ça.
Mais ouais, donc bon, si Ned essaye de veiller sur eux, ça va être compliqué. Déjà que lui, à Winterfell, il a déjà sa propre pupille, hein, Théon Greyjoy. Il a déjà quoi, 5-6 enfants.
Putain, il va avoir 10 pupilles.
Bon, après, tu me diras, bon, je pense qu'il est assez riche pour ça, hein. Je pense qu'il a assez de place à Winterfell pour acquérir 10 pupilles, mais voilà, quoi. Il se met dans des situations où après, c'est compliqué de s'en extraire. Tu fais des promesses, peut-être qu'il devrait les réserver un peu plus, quoi.
C'est un bâtard, Robert. Genre, il dit prends soin de mes enfants, mais en vrai,
ouais, il n'y en a pas un plus.
Tu vois, il n'y en a pas deux, quoi. Il y en a, je sais pas combien. Je pense que Robert pensait pas à ces bâtards, à ce moment-là.
En parlant à Barry Sansalmi, Ned se rend compte que le roi n'était pas dans son état normal pendant la chasse. Il avait, semble-t-il, trop bu, d'où l'accident serait arrivé. Varys, silencieusement, approche alors et demande à Barry Sansalmi qui a servi le vin à Robert. Barristan répond que c'est son écuyer personnel, Lancel Lannister, pour qui Varys ne manque pas de rappeler l'arbre généalogique.
Ah, là, ça peut. C'est vrai que ça semble méga forcé. Là. Comment ça, Lancel Lannister, le fils de Kevan Lannister, le cousin de Cersei la reine, ce Lancel Lannister.
Ouais.
Et vraiment, mais quel gentil écuyer, quoi. Vraiment de servir du vin en pleine chasse à son.
Et ça fait un peu écho à ce qu'avait dit Ned, hein, quand il, pendant le tournoi de la main, lorsque Robert voulait rentrer dans la mêlée, Ned s'était rendu compte que, ouais, les deux écuyers de Robert, c'était deux Lannister. Lancel et Tyrek Lannister.
Ouais.
Donc, si on fait un point généalogie. Alors, est-ce que tu te rappelles de qui Lancel est le fils?
Je viens de le dire, Kevan.
Oui, pardon, de Kevan Lannister. Donc, qui est Kevan Lannister?
Le frère de Tywin.
Ok. Et du coup, l'autre écuyer de Robert?
Tyrek, c'est le fils de... C'est pas le Jon Lannister, non?
Non. Jon Lannister, c'est la femme de... Enfin, la femme de Tywin qui est morte maintenant.
Jaina?
Non.
Putain, merde. Bah, je sais pas, d'un autre frère mort, moi, je sais plus quoi.
D'un autre frère, oui. Donc, dans la famille Lannister, en tout cas, au moment où on est, il y a Tywin Lannister, donc le sire actuel de Castle Rock, et il a trois frères. Un est encore vivant, Kevan Lannister, et son fils, c'est Lancel Lannister, donc celui qui a servi du vin à Robert. Et Tywin Lannister avait deux autres frères, mais qui sont à présent morts. Je crois que le troisième s'appelle Tygett Lannister, et donc c'est de lui que vient Tyrek Lannister. Oui, c'est ça. Donc le troisième, c'est Tygett Lannister. Il est mort d'une vérole. Et donc oui, son fils, c'est Tyrek Lannister, le second écuyer de Robert. Et le quatrième s'appelle Gerion Lannister. Et lui, il a été perdu en mer. Alors, perdu en mer, on peut trop s'assiger, mais en tout cas, il a été perdu en mer. Et donc ouais, comme tu l'as dit, Guillaume, hein, donc deux cousins de Cersei. Et donc, comme on l'a dit, c'est très convenient pour Cersei que Robert meure à ce moment-là.
Ben, c'est pratique.
Donc, vrai que Varys, bon, à sa manière de le dire et de ce qu'on peut supposer, voilà.
C'est un accident un peu provoqué, quoi. Ça sent l'accident provoqué.
Mais après, il faut voir au niveau du timing. C'est ça qui pose problème. Parce que Robert était déjà parti à la chasse au moment où Ned a parlé à Cersei.
Donc soit c'était déjà prévu.
Ouais. Ou soit...
Elle a fait parvenir un message d'une manière ou d'une autre.
Ouais. Ou soit c'est vraiment un accident. Hein, et dans ce cas-là, c'est vraiment très convaincant. Hein. C'est vraiment une grosse coïncidence qui paraît très pratique.
T'imagines, genre, elle a rien à voir dans tout ça. Cersei, genre, quand elle reçoit la mort de Robert, elle doit...
Et en même temps,
doit lâcher son meilleur move. Hein,
et en même temps, on dit ça, on dit que c'est pratique, mais... c'est comme par rapport à la mort de Jon Arryn. On sait que Cersei n'a rien à voir avec ça. Et pourtant, ouais. Jon Arryn était très proche du secret de Cersei. En fait, il le savait, le secret de Cersei et de Jaime. Mais pourtant, Cersei et Jaime, de ce qu'on comprend, n'ont pas grand-chose à voir avec la mort de Jon Arryn.
Ouais.
Donc là, c'était très convaincant, mais c'était un coup de bol.
Mais je pense que, pour le coup, Cersei et Jaime n'étaient même pas au courant que Jon Arryn était au courant. Ça se trouve, pour eux, la mort de Jon Arryn, c'est juste un mystère ou c'est juste une mort naturelle pour eux.
Ouais. Mais c'est vrai que Cersei, lors de la conversation avec Ned, elle a pas trop eu l'air de réagir au fait que Jon Arryn savait ou... C'est parce qu'il a dit je viens vous voir parce que je connais le secret de la mort de Jon Arryn.
Oui, et elle a juste répondu « Ah bon ?»
Ouais. Peut-être qu'elle savait, peut-être qu'elle savait pas, mais en tout cas...
Enfin,
on sait qu'il y a pas de lien entre elle et sa mort pour l'instant, en tout cas. Hein. Ouais. On croit qu'il y a... Enfin, pour l'instant, on suppose qu'il y a pas de lien entre elle et la mort de Jon Arryn.
J'avais l'impression que justement l'avis de Cersei sur la question dans le chapitre où Eddard et Cersei se rencontrent a été volontairement un peu brouillé, enfin que Martin a volontairement un peu brouillé les pistes sur cet avis là de Cersei, quoi.
Ouais. Non mais des fois Martin, alors je veux dire après c'est dans la narration, hein. Car en vérité là c'est con, mais genre en mode de Ned casse les couilles. Il pourrait nous dire tout ce qu'il sait par rapport à, je sais pas, la mort de Lyanna, etc. Et genre, il nous donne des sortes d'indices, des récits entrecoupés, mais on n'a rien en vérité. Alors qu'il pourrait juste nous dire, ah oui, je me rappelle, à la mort de Lyanna, il s'est passé ça, quoi. Donc ouais. Pour finir la conversation, Ned demande à Varys que soit annulée la tentative d'assassinat de Daenerys. Même si pour Varys, c'est peut-être déjà trop tard. Et c'est là qu'on peut se poser aussi la question, mais... À quoi il joue, Varys? Parce que on sait qu'il complote avec Illyrio Vopatis pour mettre un Targaryen sur le trône, on sait pas trop.
Et là il fait, bah non, je suis désolé, elle est déjà condamnée, en fait. C'est bizarre. C'est bizarre.
Ouais.
Ouais, moi, je trouvais ça très bizarre, hein, bizarre.
Donc, tu penses quoi par rapport à ça?
C'est vraiment bizarre, je sais pas. Pourquoi... Ouais, à quoi il joue, quoi.
Et ça fait quoi, ce qu'il a fait, ce qu'on avait dit au chapitre présent par rapport à Ilhomopatis, les autres dragons, etc. Et le marché qu'il a conclu avec El Drogo en échange d'une armée par rapport à Daenerys, mais, on sait qu'ils complotent vraiment, hein, pour mettre, les Targaryens sur le trône, mais ils ont l'air de plus se remettre des bâtons dans les roues qu'autre chose. Je veux dire, Varys, comment il commandite l'assassinat de Daenerys, Ilhomopatis, lui, il envoie Daenerys et Viserys loin à Vaes d'Outhraki, il les envoie dans une armée d'Outhraki où on n'a pas l'impression qu'ils ont des protecteurs. Donc, ouais, bizarre. Sur le départ de la citadelle de Maegor, Ned se fait invectiver par Renly. Celui-ci, après avoir demandé à Ned de congédier ses gardes, afin qu'il puisse discuter en silence, lui fait comprendre que, même si Robert l'a nommé protecteur jusqu'à ce que Joffrey soit en âge de régner, il lui faut quand même séparer Joffrey de sa mère, car celui, qui tient le futur roi, tient le royaume. Donc c'est un peu la vérité, hein. Je veux dire, tu sais que si t'as le roi, tu tiens le royaume en vérité, parce que bon. Et d'ailleurs, Renly lui propose des hommes, lui dit qu'il possède des chevaliers et des seigneurs alliés. Donc par rapport à... Ah pardon, en fait j'allais dire quelque chose par rapport à Renly, mais j'ai zappé dans mon paragraphe, donc juste... revenir juste au moment où on est dans la chambre de Robert, et après on va revenir à ce que je disais là.
Ouais.
Mais du coup dans la chambre de Robert, on entend par ailleurs Renly Baratheon, donc on l'appelle, hein, le plus jeune frère de Robert, parler admirativement du roi avant de le quitter, qu'il a même réussi à tuer le sanglier malgré les blessures qu'il avait infligées, que Robert était un homme brave et fort, et donc là je voudrais faire un petit détour par la série, parce que en fait, d'après les yeux de Ned, Renly était beau, brun, jeune, et surtout le portrait craché de Robert au même âge. Et en fait, je trouve qu'ils l'ont très mal, ils l'ont très mal déjà casté, l'acteur de Renly dans la série, et qu'ensuite c'est pas du tout le même personnage que dans les livres, je trouve. Dans la série, je sais pas qu'il est moche, mais
bon, il est mignon, ça va.
Enfin... Ouais, il est quelconque, en fait. Là, ça fait plusieurs fois qu'on dit que vraiment, Renly, c'est quelqu'un de vraiment beau, quoi, de charismatique, de... C'est à plusieurs fois qu'on dit qu'il est grand, qu'il est... Parce que justement, en fait, moi, ça m'a choqué quand je l'ai vu la première fois, parce que ça fait plusieurs fois qu'on le dit, dans la première fois que Ned le voit, il le dit clairement que c'est le portrait craché de Robert, qu'il était fort, qu'il était vaillant. Alors que dans la série, on sait que...
Si Robert, c'était ça, au Trident, bah... Bof, hein.
Non,
t'es déçu si... Enfin, t'es
ah oui, voilà. Donc, je veux dire, si Robert, c'est le, aussi, si le Robert qu'on voit. Enfin, pardon. Si Robert, c'est le même que le Renly qu'on voit dans la série. Oui. T'es déçu, justement.
Ouais.
Alors que, non, Robert, il était assez fringant, en fait, quand il était jeune. Et c'est pour ça que je trouve qu'ils ont assez mal casté le personnage. Il est quelconque, en vérité, tu vois. Il a pas ce...
Bah, il a ce côté un peu mou,
Tu
vois.
Un peu
en retrait par rapport aux autres. Pas du tout aptes à gouverner parce qu'il est trop mou, tu vois.
Ouais, voilà. C'est ça, c'est mou en fait. Alors que là, dans les livres, il a l'air assez. Enfin, en fait, Ned le fait ressortir comme étant quelqu'un d'assez resplendissant, en fait.
Et même charismatique.
Et deuxièmement, je trouve que le caractère n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que dans la série, t'as plus l'impression que justement, c'est quelqu'un qui est pas très beau au départ et qui essaye de tout faire pour se mettre en valeur. Alors que dans les livres, t'as plus l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà beau au départ et qui, en fait, tout ce qui est sur lui, tu vois, est beau, en fait. Et même dans la série, tu sais, il est un peu piquant, en fait. Des fois, il sort des répliques quelque peu... Dans les livres, il est pas forcément comme ça, quoi.
Ouais.
On n'a pas cette.
Dans la série, t'as vraiment l'impression qu'il a pas les épaules pour les épaules d'un Baratheon, en fait.
Je pense qu'ils l'ont déjà, ils l'ont trop caractérisé dans la série, et en plus ils l'ont mal caractérisé par rapport à celui des livres. Enfin voilà, c'est ce que je pense. Et donc oui, donc Renly rejoint Ned, hein, sur le pont de levis de la citadelle du Mégor. Donc voilà, donc on l'a dit qu'il lui propose des hommes et des chevaliers, des seigneurs alliés. Et donc par rapport à ce qu'on sait, Renly, il a l'air assez proche de Loras Tyrell. Premièrement parce qu'on sait que, tu sais, dans l'armurerie de Tobomot, là, celui dans lequel Gendry est l'apprenti forgeron, on sait que c'est là qu'il s'est équipé de son armure en même temps que le chevalier des fleurs, Loras Tyrell.
Ouais.
Et deuxièmement, on sait qu'il a comploté avec Loras Tyrell pour faire marier Marjorie Tyrell à Robert. Donc on sent que les alliés de Renly sont plus du côté de Haut-Jardin, donc les Tyrell, ouais. Quoi. Bon, on ne sait pas si justement c'est vraiment qu'il a qu'une complaisance de Loras Tyrell ou si vraiment la famille Tyrell est derrière lui. Mais s'il a comploté pour que Marjorie Tyrell se marie avec Robert, c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment la famille Tyrell au complet qui est derrière.
Je pense qu'il a sûrement l'aval du père ou un truc comme ça, quoi.
Ouais. Donc ça serait eux, les fameux alliés de Renly. Mais Ned refuse parce que bon, c'est un homme d'honneur et il ne veut pas enlever des enfants et verser du sang alors que le corps de Robert n'est pas encore froid. Et c'est Ned Stark, l'homme d'honneur, l'homme de principe par excellence. Mais du coup, en fait, en venant dans ses appartements, bah, il se souvient de ce que lui a dit Cersei lors de leur entretien dans le bois sacré. Quand tu joues au jeu des trônes, tu dois vaincre ou périr. Et du coup, il se demande si refuser l'offre de Renly n'était pas une erreur. Alors, il convoque Littlefinger dans ses appartements pour essayer de régler la chose, quoi. Il confie alors une mission à Gros Tom, qui est à présent le capitaine des gardes de Ned Stark. Donc, le premier qu'on a connu, c'était Jorah Cassel, qui est mort, du coup, par le régicide ou par un de ses gardes, je sais plus.
Ouais. Après, c'était Aelin, qui est parti à la poursuite de Ser Gregor avec,
Beric Dondarrion. Ouais, dans le conflant. Et, voilà. Du coup, maintenant, c'est Gros Tom, le capitaine de ses gardes.
Et on sent que le vocabulaire, il diminue petit à petit, tu sais. Genre, Jorah Cassel et Aelin, ils avaient l'air de s'exprimer, très bien. Gros Tom, vas-y.
Mais là, ça, faut que je vois dans la version originale, mais, moi, je trouve que c'est très déplaisant à lire, hein, ce langage.
Je déteste. Le pire, c'est Yoren.
Ah ouais?
Yoren, quand il parle. Insupportable.
Ouais, non, j'aime pas du tout. Mais je crois que ça l'est pas justement dans la version originale. Je crois que c'est un ajout de la version française.
Bah, je crois qu'au lieu de dire My Lord, ils disent Milord ou un truc comme ça, tu vois.
Ouais. Mais en tout cas, là, c'est vraiment entrecoupé à chaque mot, mal orthographié et tout, etc. Ah, c'est déplaisant à lire.
Oh non, moi, j'aime pas.
Mais bon, après, c'est peut-être l'effet escompté, hein. C'est peut-être la façon dont on parle, bon, le bas peuple, qui doit être déplaisant.
Ouais, mais je dois me concentrer pour, j'ai l'impression de décrypter à chaque fois.
C'est vrai que si t'es dyslexique, ça va être compliqué de... du coup, il confie la mission à Gros Tom de raccompagner ses filles à Winterfell avec le bateau du nom La Charmeuse du Vent. Et, tout ça en passant par Père Dragon pour confier un message à Stannis Baratheon. Et on peut supposer le contenu de ce message, hein. Donc gros message, j'ai intérêt de lui dire bon, Geoffrey Myrcella Tommen des bâtards.
Ouais.
Geoffrey n'est pas le vrai roi. Faut vite venir à Port-Réal. Ouais,
ramène ton cul à Port-Réal. Ouais.
Ramène une armée, voilà quoi. Et moi j'aurais pas, franchement j'aurais pas confiance de laisser un message comme ça voguer dans la nature. Hein.
Ah ouais.
Déjà en plus il a signé de son nom, il a posé son sceau, c'est à dire que là ça y est. Trahison, hein. Vraie trahison, pure su.
Enfin, trahison, pas tant que ça, hein. C'est des bâtards, tu vois, donc.
Ouais, mais après, pour ça, faudrait que tout le monde le sache, en fait.
Ouais, il faut le prouver, surtout.
Ouais, vous le prouvez. Et comme on a dit, ils ont pas de test génétique à Port-Réal à cette époque.
C'est vrai que, genre, prouver en mode, je suis désolé, ils ont pas les cheveux noirs, c'est un peu léger, quoi.
Mais en vérité, c'est même improuvable. Hein. Je veux dire que tu veux pas prouver ça. Tu veux pas prouver que, je veux dire, avec les moyens qu'ils ont actuellement, ils peuvent pas prouver que c'est pas ses enfants.
Ouais.
Surtout s'il est mort maintenant, donc.
Ombran pouvait le prouver, mais, enfin. Ouais, encore prouver, c'est un grand mot. Hein.
Ouais,
c'est un témoignage. Il pourrait témoigner. Mais
d'ailleurs, c'est pour ça que tu vois, lorsque Robert signe son testament, il a besoin de témoins pour dire que bon, il y avait des gens qui étaient présents et qui ont vu. Parce que c'est vrai que bon, les témoignages à cette époque-là, en fait, c'est ce qui faisait foi. Et s'il y avait pas ça, c'était compliqué, quoi. Il y avait pas d'enregistrement audio, donc c'était sur l'honneur, c'était sur la parole, c'était sur voilà. Du coup, ça me met mal, parce que ça met vraiment Ned dans une situation compliquée. Je veux dire, même s'il dit ça, il a aucune preuve. Enfin bon, Littlefinger arriva enfin dans les appartements de Ned, et Peter Baelish le félicite premièrement pour son nouveau poste de protecteur du royaume. Il est au courant car Varys l'insinue, et on sait à quel point Varys a des sources fiables. Donc là, on s'est dit entre lignes qu'il a étudié ses oisillons, mais ce qui est assez chelou, parce qu'on sait que les oisillons de Varys, c'est des enfants que Illyrium Baptiste lui envoie. Mais là, à quel moment il y a eu des enfants qui pouvaient se trouver dans les appartements de Robert?
Passage secret, hein, je sais pas. Alors sous le lit.
Donc du coup, il y aurait... Ouais, c'est ça, sûrement... Parce que Varys était à l'extérieur de la pièce au moment où Ned lui a confié ce poste. Et c'était pas un des témoins présents. Parce que les témoins qui étaient présents lors de la signature du testament, c'était Renly et le grand maître Pycelle. Donc et on sait qu'il était pas à l'extérieur de la porte pour entendre, parce qu'il y avait deux gardes royaux, donc Barristan Selmy et Preston Vrechant. Donc ouais, sûrement qu'il y a un passage secret qui donne dans la chambre même de la citadelle de Maegor.
Putain, c'est Poudlard le truc, quoi.
Ouais. Mais ouais, du coup, si Varys il peut avoir accès à ses appartements, c'est chaud. C'est aucune conversation qui peut être privée, du coup. Du coup, Ned avoue enfin à Littlefinger le secret de la mort de Jon Arryn, excepté que Littlefinger n'apparaît pas surpris. Et du coup, comment on le décrypte ça? Est-ce que c'est quelque chose qui était peut-être connu des gens de la cour, ou quelque chose dont Littlefinger avait le secret parce que, bon, c'est Littlefinger, ça paraît quelqu'un d'assez au courant de certaines choses, quoi?
Ouais, je pense que, genre, il y a un nombre restreint de personnes qui le savent, mais c'est des personnes bien renseignées, quoi.
Mais comment ils le savent, tu vois? Est-ce que, par exemple, ça se voit? Je pense qu'à un bout d'un... Je sais pas, parce que...
Bah déjà, Littlefinger, lui, il possède des bordels. Et t'as Stannis et Jon Arryn qui arpentaient les bordels, déjà.
Ouais.
À la recherche de réponses à des questions. Probablement, là, Littlefinger, il a probablement eu des retours.
Ouais.
Donc, il y a déjà ça. Et ensuite, bon, on sait que c'est un mec qui a plus d'un tour dans son sac. Hein.
Ouais.
Donc, que Littlefinger soit au courant, ça m'étonne pas.
J'en sais même qu'il il doit être au courant. Je pense que c'est plus parce qu'il doit être au courant peut-être de la liaison entre Cersei et son frère Jaime. Hein. Parce que les deux, ils étaient au Donjon Rouge pendant quoi? Une quinzaine d'années depuis la rébellion de Robert, enfin depuis qu'il a pris le pouvoir. Donc sûrement qu'ils ont dû avoir des... Hein, à l'intérieur de Port-Réal. Donc Littlefinger, peut-être qu'il était au courant, ouais. Sûr que Varys, avec ses oisillons, il a dû savoir aussi.
Lui, il était forcément au courant.
Donc c'était un secret de polichinelle entre quelques personnes. Ah non, du coup, c'était pas un secret de polichinelle, parce que secret de polichinelle inclut que tout le monde le savait.
Ouais.
Mais là, bon, ça devait être un secret connu, oui, d'une poignée de kilos.
Ouais.
Et pour Ned, c'est donc à Stannis que revient à présent le trône de fer maintenant que Robert est mort. Et donc, du coup, c'est la vérité. Parce que si on regarde la ligne de succession.
Bah oui, bah c'est lui. Enfin, c'est lui, quoi.
Ok, donc on reprend, hein, parce que, à moins d'évincer les Targaryens. Parce que bon, c'est les Targaryens, les rois légitimes, les premiers rois, la famille royale par excellence, etc. Sauf que maintenant, Viserys est mort, donc le trône y reviendra à Daenerys. Donc Daenerys, on peut la mettre genre en mode en premier si on compte les Targaryens. Maintenant, si on les exclut et qu'on dit bon, les Targaryens sont plus sur le trône, maintenant c'est les Baratheon, bon, Robert est mort, il n'a pas d'enfant légitime, donc ça revient à Stannis.
Oui, oui.
Donc Stannis est... Après, bon, ça se discute, hein. Est-ce que c'est Stannis, est-ce que c'est Daenerys? C'est un des deux. Pour l'instant, c'est un des deux, en tout cas. Mais pour Littlefinger, Ned ferait mieux d'appuyer la candidature de Joffrey au trône de fer. Pourquoi ? Parce que, bon, si on lit entre les lignes de ce que Littlefinger dit, en gros, c'est parce que Stannis, c'est un roi qui lui conviendrait pas. Mais Guillaume, je te laisse parler des arguments que Littlefinger a invoqués.
Stannis, c'est quelqu'un d'extrêmement dur.
Mm-hmm.
Il a pas beaucoup de gens pour l'appuyer, parce que c'est quelqu'un qui est réputé. Enfin, il a l'amitié de quasiment personne.
Mm-hmm.
Et c'est sûr... Rien que il vient se mettre à dos des grandes maisons, rien que les Tyrell et les Redwyne, contre qui il va les faire payer pour le siège d'Accalmie. Les Lannister, il va se les mettre à dos parce que il va foutre la tête de Cersei sur une pique, et de tous les Lannister probablement. Donc il va mettre le pays à feu et à sang rien qu'en se mettant à dos deux grandes maisons comme les Tyrell et les Lannister. Et puis, il va diriger... il sera compétent, mais il va diriger vraiment d'une main de fer, quoi.
Mmh. Et Paul Littlefinger, problème. Parce que sûrement que
Stannis... Il va virer tout le monde. Ouais, il va changer totalement le conseil restreint.
Mmh. Donc le poste de Littlefinger, voilà, il va être évincé complètement. Donc pour lui, ça ne lui convient pas forcément. Quant à Joffrey, c'est un jeune homme de 12 ans. Donc, comme le dit Littlefinger, hein, beaucoup plus facile à manipuler. Quand même 4 ans entre le moment où... Enfin, entre maintenant... Et le moment où il va réellement accéder sur le trône, les 4 ans, c'est long.
Ouais, c'est un mandat américain.
Voilà, donc pour Littlefinger, c'est mieux de dire, bon, ok, Varys, on va l'écarter. Et puis, au cas où il y a des problèmes avec Joffrey, on l'écarte et on met Rhaenyra à la place, qui paraît un peu plus conscient que Stannis. Pour Ned, ce que Littlefinger suggère est de la trahison. La trahison pure et dure. Et Ned ne peut oublier ce qui est arrivé à son fils Bran, à Jorah Castle, ainsi que Jon Arryn. On l'a dit, hein, Ned, homme de principe, homme d'honneur. Le Nord se souvient. Donc ouais, au niveau de là, il va commencer... Enfin, on commence vraiment à avoir des problèmes de succession, quoi. Parce que pour l'instant, tout était lisse, tout était stable, Robert était sur le trône, point. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Et c'était une ligne droite, verticale, il n'y avait pas de... Mais dès qu'il commence à avoir des problèmes de succession, c'est là que la merde commence à entrer. Parce que c'est des...
Là, c'est le vrai jeu des trônes, en fait.
Mmh. Donc c'est pas qu'on a dit que en début de chapitre que voilà c'était vraiment un checkpoint ce chapitre hein. C'est vraiment un point de passage avant d'entrer dans ce qu'on appelle véritablement le jeu des trônes parce que là on peut se poser la question qui est le souverain légitime maintenant après Robert certes il a été installé à part oui Daenerys et Viserys qu'il appelait l'usurpateur et bon ils avaient quelques aficionados hein les ceux qui avaient soutenu les Targaryens à l'époque et qui les soutiennent toujours comme la famille Dary par exemple.
Ouais.
Mais maintenant que Robert n'est plus là, tout le problème revient maintenant à exposer à tout le monde le fait que Joffrey, Tommen et Myrcella ne sont pas les enfants légitimes de Robert. Et alors là, comment tu vas le faire? Ça, Ned, il faudrait qu'il en... Je vois comment Ned, il compte l'exposer à toute la population, parce que pour que ça... Enfin, en tout cas, pour qu'on reconnaisse Stannis comme le vrai roi, il faut que toute la population sache que ce n'est pas les enfants légitimes. Donc comment il va s'y prendre, ça, là, c'est la question.
Ouais.
Mais en fait, ce que souhaite Ned réellement, hein, en invitant Littlefinger, ce sont les manteaux d'or, donc le guet de Port-Réal, les gardes de la capitale. Car Ned a trop peu d'hommes présents à Port-Réal pour se défendre, et ses ennemis bien plus dans leur garde personnelle, ainsi que leurs amis proches à proximité. Et donc en vérité, c'est ça, c'est que Ned, c'est un seigneur super puissant, voilà, c'est le gouverneur du Nord, c'est voilà, c'est la main du roi. Le problème, c'est qu'il est super éloigné de ses hommes. Je veux dire, là, il est tout au sud. Enfin, tout au sud, il est vraiment au sud, milieu de la carte. Et je veux dire, toute son armée, elle est coincée dans le nord, quoi. Enfin, elle est pas coincée, mais là, il est très, très loin de ses hommes. Donc, il n'a aucun pouvoir véritable à Port-Réal. C'est ça, le problème.
Ouais.
Alors que, il soit la main du roi et que Cersei Lannister... elle lui a avoué que elle a trompé Robert, c'était pas les enfants légitimes. En vérité, là, il peut rien faire du tout, parce que Cersei, elle a une Lannister à côté, elle est déjà installée à la capitale, tout le monde la reconnaît comme la vraie reine. C'est compliqué, mon aide. Donc du coup, il est obligé de faire appel à Littlefinger pour avoir des hommes.
Ouais.
Sauf que faire appel à Littlefinger et surtout payer des hommes de cette façon-là, c'est pas très louable. Et mon aide, il rechigne un peu à se faire aider par lui, quoi.
Bah, en vrai, il a pour lui d'avoir le testament de Robert. ou voilà.
Ouais, mais le testament de Robert, il veut rien dire, parce que même s'il a remplacé Geoffrey par mon héritier légitime, encore faudrait-il qu'il prouve et qu'il prouve à tout le monde que c'est pas ses enfants.
Déjà, il aurait 4 ans. Il serait nommé protecteur du royaume, donc jusqu'à la, à la, il a 4 ans de marge pour un peu faire des manœuvres.
Mm.
Donc au moins il a ça. Donc en théorie, là les hommes du guet, c'est vraiment un backup. C'est vraiment normalement il se ramène avec le papier. Normalement c'est sacré hein, les dernières volontés de Robert c'est sacré, il est nommé protecteur du royaume et régent, c'est à peu près calme pendant au moins 4 ans jusqu'à la vraie succession.
Oui.
Donc vraiment le guet, je pense qu'il rechigne pas trop parce qu'il se dit normalement il y a pas de raison d'avoir à utiliser le guet, ils seront payés voilà machin au cas où, mais normalement ils auront rien à faire parce que je vais me ramener avec le papier de Robert.
Ouais. Sauf que on sait que les Lannister c'est la famille la plus puissante et la plus riche des 7 couronnes et que on sait hein, l'argent c'est le nerf de la guerre, c'est ce que Littlefinger gardien hein.
Oui.
Quand il y a un roi, enfin la reine Cersei Lannister qui va proclamer que son fils est le roi légitime et Ned qui va dire que non c'est pas le roi légitime, envers qui les gens ils vont se tourner? Envers celui qui les paye. Et donc Ned il a besoin de Littlefinger, sauf que je pense que Ned il a commis une erreur. C'est qu'il aurait jamais dû dire à Littlefinger que qu'elle allait soutenir Stannis de cette façon-là, parce que là Littlefinger lui a bien dit que non, il ne voulait pas Stannis. Ned il a forcé. Et on sait que Littlefinger c'est quelqu'un qui n'hésite pas à mentir pour protéger ses intérêts.
Ouais, c'est ses intérêts à lui. Là, il est en train de faire confiance à quelqu'un qui en théorie n'a rien à gagner à te soutenir en fait.
Ouais, donc je vois pas comment Ned peut, enfin même en lisant la conversation, tu te dis mais pourquoi il accepte au final?
Ouais.
Donc tu, franchement, tu sens que Littlefinger lui ment au final là. Lui dit ça, mais c'est des conneries ce qu'il lui dit.
Ouais. Ouais, il ferait clairement de mon point de vue, c'était plus safe de demander à Renly des hommes que.
Grave. Et je comprends même pas d'ailleurs pourquoi il a pas dit à Renly ce qu'il savait. Hein. Bon, peut-être parce qu'il faisait pas compte. Mais c'est con parce que il dit
genre il fait confiance à Littlefinger.
Bah envers le fait que. Littlefinger, ça soit l'ami d'enfance de Catelyn et que Catelyn a l'air de lui faire confiance. Ouais. Et on en revient toujours à Catelyn qui fait erreur sur erreur. Hein, mais... Ouais.
Mais là, c'est bête parce que clairement, quitte à demander des hommes, tu vois, parce que le truc qu'il a rebiffé, c'est que Renly, lui, il dit carrément aller kidnapper Geoffrey carrément, tu vois. À la limite, ça, je suis d'accord. Ok, ça, je comprends qu'il soit pas d'accord. Mais il peut négocier avec Renly, il fait « Ok, je veux tes hommes, mais ce qu'on va faire, selon mon plan, c'est on va se présenter, on va montrer le papier, je suis régent, et après, on fout Stannis sur le trône, on a un peu de temps, tu vois. »
Ouais, mais bon, bah, en tout cas, la situation, elle devient assez complexe. Donc, bon, bah, on va voir ce qui va se passer hein, dans les prochains chapitres pour réel. Enfin, voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, il était assez long. Mais il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à théoriser, beaucoup de choses à expliquer, à analyser. En tout cas, nous, ça nous a bien plu d'en parler. On espère que vous continuerez à nous suivre, que vous nous suivrez sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes actifs, que vous nous enverrez pour nous contacter soit des mails et voilà, si vous êtes assez content de notre taf.
Des DM sur Twitter aussi.
Et si vous êtes assez content de notre taf... eh bien, vous pouvez nous noter ou
partager, liker, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast.
Ouais, toutes ces conneries quoi.
Tous ces trucs, là, tous ces bails d'influenceurs.
Mais voilà. Eh bien, à la prochaine.
À la prochaine.